Vous écoutez RTL.
Un suspect, Nordal Lelandais, deux crimes, Maëlys et Arthur Noyer, d'autres affaires auxquelles s'intéressent les gendarmes, et voilà qu'apparaît ce qu'on appelle ce matin l'ombre d'un tueur en série.
RTL Matin, 3 minutes pour comprendre.
Bonjour Jean-Pierre Bouchard.
Oui, bonjour.
Sur le commun duplex de Bordeaux. Voilà, vous êtes apparu. Jean-Pierre Bouchard, tout d'abord, il y a une question très simple qu'il faut vous poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un tueur en série très exactement? Comment le définit-on?
Alors la définition la plus classique du tueur en série, c'est quelqu'un qui tue au moins 3 victimes avec un espace de temps entre chaque meurtre, c'est-à-dire qu'il y a une accalmie émotionnelle, il y a une accalmie des motivations. C'est le contraire d'un tueur de masse qui, lui, tue au moins 4 victimes en même temps lors du même événement criminel. Et ces tueurs en série peuvent être, comme les tueurs de masse d'ailleurs, ou pathologiques, ce qui est très rare sur le plan mental, ou alors... on va dire dans la normalité, en tout cas responsable de leurs actes, et ce sont les cas les plus fréquents.
À partir de 3 victimes dans la durée, est-ce qu'ils ont des particularités? Est-ce que ces victimes peuvent avoir des particularités? Est-ce qu'on retrouve des choses précises concernant les modes opératoires?
Alors, il a été véhiculé une idée qui est assez fausse, en fait, c'est que les tueurs en série tueraient toujours le même type de victime pour les mêmes raisons et de la même façon. En fait, dans la réalité, c'est faux. C'est vrai pour certains, mais c'est pas systématique. Les tueurs en série, pour certains, peuvent tuer des victimes différentes pour des motivations différentes. Alors, on retrouve des motivations qui reviennent souvent, des motivations sexuelles, des motivations sadiques, mais ça peut être aussi pour d'autres raisons. On voit des gens qui commencent par... agresser sexuellement, par exemple, et qui tuent après pour que la victime ne les identifie pas, mais ils peuvent tuer aussi pour des raisons crapuleuses ou pour d'autres raisons. Et on voit même des tueurs en série qui ont des raisons mixtes suivant les victimes, donc sexuelles, par exemple, pour les unes, pour les autres, ça peut être crapuleuse, ou pour d'autres raisons, ou pour des raisons totalement inconnues qui sont là beaucoup plus rares et propres, en quelque sorte, au tueur en question, qui réglerait les comptes par rapport à un passé ou par rapport à un type de victime. Et là, on est dans des cas beaucoup plus rares.
On peut avoir des victimes qui n'ont absolument rien à voir. Je rappelle que Nordal Lelandais nie les faits et qu'il reste présumé innocent, que nous devons faire attention à ce que nous disons aussi vis-à-vis des familles potentielles de victimes. Mais on était surpris de se dire, est-ce qu'un même homme peut s'attaquer à un militaire de 23 ans et à une fillette de 9 ans si c'est bien lui qui est responsable? Qu'est-ce que vous inspire ce constat?
C'est une porte qu'il ne faut pas fermer, c'est une hypothèse possible. Après, il faut que les enquêteurs, évidemment, vérifient ça, trouvent des preuves, amènent des preuves, et que tout ça soit cohérent. Mais en théorie, ce n'est pas du tout impossible.
Faire disparaître un corps, ça demande de la préparation, du sang-froid?
Alors, ça dépend. Si la personne a déjà l'expérience de ça, évidemment, il peut reproduire ce qu'il sait faire pour faire disparaître les corps. Certains y pensent avant, se documentent ou le font naturellement. Ça dépend. Il y a différents modes de disparition possible. Mais en général, oui, ça demande d'y penser au moins un minimum. Et c'est pour ça que l'on parle souvent d'assassinat dans ces cas-là, parce qu'il y a très souvent une préparation minimum.
Qu'est-ce que ça dit du profil psychologique de la personne qui est capable de faire ça?
Ça veut dire qu'elle ne veut pas être identifiée déjà, qu'elle ne veut pas être retrouvée, puisqu'elle fait disparaître les preuves principales qui pourraient dire des choses sur son mode opératoire, sur sa façon de faire, sur ses motivations, etc. Et donc ça, c'est l'enseignement vraiment principal. Et quand les corps ne sont pas retrouvés et qu'il n'y a aucune suspicion et aucun projecteur judiciaire sur la personne en question, évidemment, ça lui permet quelquefois de récidiver ou en tout cas d'échapper aux sanctions pénales.
L'homme dont nous parlons ce matin se montre imperturbable face aux enquêteurs. Comment peut-on l'interpréter? Il faut une force intérieure importante?
Oui, c'est difficile hein, parce qu'on ne le connaît pas. Après, si les enquêteurs amènent des éléments de preuve irréfutables, évidemment, les choses seront beaucoup plus compliquées. Alors, il faut être très prudent, hein, parce qu'il y a des gens pour qui il peut y avoir des suspicions qui sont démenties plus tard. Au contraire, il y a des éléments de preuve qui peuvent apparaître. Donc, n'oublions pas que tant qu'une personne n'est pas définitivement condamnée pour des faits criminels, elle peut pas être considérée comme une criminelle, évidemment. Ça n'empêche pas que les enquêtes doivent continuer pour aller vers une solution judiciaire ou une autre, et c'est ce qui va être fait maintenant, qui est facilité par le croisement notamment des données numériques, qui facilite les enquêtes évidemment, en amenant des preuves beaucoup plus tangibles.
Avec toutes les précautions d'usage que nous devons prendre pour évoquer cette affaire, est-ce que les éléments qui sont parvenus jusqu'à vous concernant le profil et le parcours de Nordal Lelandais pour l'instant peuvent faire de lui un possible tueur en série ?
Non, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a des faits de violence qui ont été évoqués. Les gens qui ont des passés violents sont extrêmement nombreux, alors que les tueurs en série sont extrêmement rares. Donc il faut se garder de systématiser. Oui. Encore une fois, c'est l'enquête qui va révéler tout ça.
Merci beaucoup Jean-Pierre Bouchard. Les enquêtes se poursuivent, je le rappelle. Elles concernent désormais toute une région. Et rappelons que Nordal Lelandais et son avocat nient toute participation dans ces affaires. Enfin, un dernier merci à Philippe de Maria qui était à vos côtés pour cette interview. Bonne journée à vous.